Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous incontournable du week-end pour débattre, s'écharper, se détendre aussi autour de l'actualité sportive. Très heureux de vous accompagner si vous êtes en vacances, si vous êtes sur la route, si vous êtes au travail. Bon courage à tous ce matin. Programme grand luxe pour les amoureux du sport et du Tour de France, c'est la fin aujourd'hui. Alors pour vous, est-ce que le Tour de France des Français est un échec? 32-16 pour nous rejoindre, on sera avec la Dream Team Vélo pour parler aussi de cette dernière étape dans les rues de Paris, sur la butte Montmartre. Est-ce que le passage par Montmartre doit devenir systématique pour les coureurs du Tour de France? Notre débat, ça sera à 11h. Et puis du tennis à 10h avec Yannick Sinner qui rappelle son ancien préparateur physique quelques mois après la fin de sa suspension pour dopage. Est-ce qu'il se moque de nous? Eric Salio viendra nous voir dans les GG, sans oublier le zapping, la punchline signée Valentin Rongier après son arrivée au Stade Rennais, lui l'ancien Nantais. Est-ce que l'amour du maillot existe encore? Et pour les fans de foot, n'oubliez pas que les GG vous font gagner vos places pour un match de préparation de l'AS Monaco. AS Monaco Inter Milan, c'est le vendredi 8 août prochain au Stade Louis II. Le match a lieu à 20h et grâce à RMC, vous pourrez assister en bord pelouse à l'échauffement des deux équipes, suivre la rencontre dans les conditions parfaites avec siège rembourré et coupe de champagne à la main. Pour remporter vos places, il vous suffit d'appeler le 32-16. Bonne chance à tous. Dans l'équipe des GG ce matin, une GG qui, comme le Sacré-Cœur, c'est haut, mais ça vaut quand même le coup. Fred Weiss, salut Fred.
Salut. J'ai attendu la suite, quoi. Je me suis dit que j'allais faire mon sacré, mais non,
j'aime bien. Sympa.
Ça va.
Ça va.
Merci beaucoup.
J'aurais pu être beaucoup plus méchant.
Oui, largement.
Le Sacré-Cœur qui fête ses 150 ans aujourd'hui. Rien à voir avec toi. Une GG qui, comme le Sacré-Cœur, ça peut vite devenir insupportable le week-end, mais ça reste incontournable. Simon Dutin est avec nous. Salut Simon.
Salut François, salut tout le monde.
Toi qui connais bien ce quartier, c'est vrai que oui, c'est assez insupportable le week-end, il faut le dire quand même.
Bah écoute, j'étais partagé parce que moi j'ai en effet longtemps habité au pied du Sacré-Cœur. J'aimais pas. Je trouvais que ça ressemblait à une grosse meringue, là, cette basilique. Ah oui. Et puis, tu sais, voir croiser beaucoup de gens qui traversent la planète pour voir une fois dans leur vie ce que toi, tu vois tous les jours, ça donne un petit côté spectaculaire, quand même.
Ah oui, j'en suis tombé amoureux. À part, quoi. Tu te sens privilégié.
Écoute, il faut bien qu'il y ait des avantages à vivre dans une grande ville comme ça.
Et une GG qui, comme le Sacré-Cœur, ça coûte quand même très cher d'y aller. Sarah Pitkowski est avec nous. Salut, Sarah. Toi, tu coûtes vraiment trop cher pour les grandes gueules. Hein.
Absolument.
On te le dit, c'est un petit message qu'on veut te faire passer.
Oui, j'ai bien compris.
Il va falloir peut-être revoir à la baisse.
Oui, mais j'ai un peu d'ancienneté, non?
Oui, ah ça compte.
Ah bah oui.
Bah, l'expérience.
Comme la basilique.
Merci pour la comparaison. J'essaie de m'entretenir comme la basilique.
C'est toujours un plaisir, évidemment, de t'accueillir. Si on parle de Sacré-Cœur, c'est évidemment parce que le Tour de France va passer par Montmartre tout à l'heure. Bah justement, on va prendre la direction des routes du Tour dans les GG ce matin.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Je n'ai qu'une philosophie. Être accepté comme je suis.
Et Alain Philippe qui
c'est Alain Philippe fait troisième.
Je sais pas s'il fait trois. Il a gagné, il croit.
Non mais il lève les bras comme s'il avait gagné. Je suis sûr qu'il a pas vu qu'il y avait du monde devant.
Pour le meilleur comme le pire.
Lenny Martinez qui était pourtant passé en tête au col du Glandon, qui avait pris 20 points, puis finalement ces 20 points sont transformés en 12 points seulement pour ce bidon collé qui a suscité beaucoup de réactions.
Fais la tête, fais le torse, sans cesse redoubler d'efforts.
Valentin Paris-Pas, qui va essayer de rentrer à droite, il attaque. Valentin Paris-Pas qui va passer Benini. Valentin, c'est la Saint Valentin. Valentin Paris-Pas sa peau.
Qui s'arrache dans les derniers mètres. Oh, il s'arrache vraiment.
C'est beau,
il nous
beau.
Fait plaisir depuis le début de ce Tour de France, Kevin, qui veut rester, qui veut faire un top 10 dans ce Tour de France.
Vas-y, Sarah. Tu peux chanter.
Il bruine déjà sur la capitale parisienne.
Je ne veux pas en rajouter.
Je ne veux pas en rajouter.
Merci
sur
les
pavés de rue de Pique qu'on va éviter.
Dernière étape aujourd'hui, effectivement, arrivée sur les Champs-Élysées, l'ultime occasion pour les coureurs français et les équipes françaises de s'illustrer, ce qu'ils n'ont pas pu vraiment faire cette année sur le Tour. Évidemment, on va citer Valentin Paré-Peintre, vainqueur au Ventoux, Vauclin Jégat dans le top 10, quelques places d'honneur, un maillot à poids porté quelques jours par Lenny Martinez, et c'est à peu près tout. D'où ma question, les GG, ce matin. Le Tour de France 2025 des Français est-il un échec? Oui ou non? Simon Dutin.
J'ai du oui, j'ai du non. J'ai envie de rendre hommage à Denis Charvet ce matin. Je vais te dire non. Je suis désolé, c'est pas un échec.
Fred Weiss.
Oui. Oui. Non, en fait, ah oui, ça marchait plus. Oui, donc décidément, je pense que c'est.
L'effet
Simon.
Est totalement raté.
J'aurais dit non, il aurait dit oui.
Non, j'avais répondu avant moi. Si on prépare l'émission, nous.
Sarah Pitkowski.
Bon, moi, je suis plutôt sur un non. Tu viens dégrainer quelques belles choses. Donc, non, ce n'est pas un échec.
Figurez-vous qu'on va accueillir Jérôme Coppel, qui est avec nous, membre de l'équipe du Tour de France RMC. Salut, Jérôme.
Salut François, salut les amis, salut à tous.
Salut Jérôme. En forme là, ça y est, c'est la dernière. Après c'est les vacances. Hein.
Ouais, ça y est, en forme. Bon, ça tiraille un peu, mais écoute, on va être en forme pour la dernière étape.
Oui, j'espère. Vous nous
mais
avez régalé.
Mais t'es au collège,
Jérôme là. Non. Alors non, je suis dans un magnifique hôtel que notre ami Gégé Pinault connaît bien, BNB Hotel. C'est vrai que ça résonne un petit peu, mais
okay.
Peut-être que je vais y aller dans les toilettes, ça résonnera peut-être un peu moins.
Ils ont mis des meubles autour de toi ou pas?
C'est un hôtel sans meubles.
Tu connais, c'est un peu sommaire, mais le matelas était très bon. C'est
très bien. Enfin, Jérôme Pinault, le salue hein, s'il nous écoute. Jérôme, ta réponse à la question rapidement sur un oui et un non, est-ce que pour toi c'est un échec le Tour de France des Français?
Non, c'est pas un échec. Si on avait été au bac, ça aurait été mention assez bien.
Ah oui,
encouragement du jury.
Ok, on va en débattre dans un instant. Mais juste avant, on va retrouver également Maria Azé. Salut Maria.
Salut François, salut tout le monde.
Salut Maria. Alors, Maria, elle a pris la pluie hier. Aujourd'hui, peut-être, ça sera encore le cas sur les routes du Tour. Maria, comment les Français jugent leur Tour de France?
Alors avec quelques fulgurances mais beaucoup de déceptions quand même, on est bien loin du Tour de l'année dernière avec 3 victoires d'étape et le maillot jaune porté par Romain Bardet le premier jour. Lenny Martinez lui s'est battu pour le maillot à poids, mais le jeune français est encore trop inconstant et peut très bien aller faire de folles échappées en solitaire un jour et le lendemain dans le groupe Eto, mais lui est satisfait.
C'est vrai que l'an dernier je suis arrivé sur le Tour, c'était très compliqué et j'avais un peu peur cette année un petit peu quand même. Je me disais j'espère que je vais faire des bons trucs et au final c'est beaucoup mieux que l'an dernier. Donc je sens que ça progresse et voilà, je me suis fait plaisir. Une étape c'était encore un peu trop dur à aller chercher mais je sens que ça vient.
On a même bien cru qu'on n'aurait pas de victoire française sur cette édition, ce qui n'était plus arrivé depuis 1999. Mais ça, c'était avant que Valentin Paré, peintre, ne lève les bras au Mont Ventoux. Autre satisfaction, les deux Français dans le top 10 avec Kevin Vauclin, longtemps installé sur le podium et qui a montré à 24 ans qu'il était un homme de grand tour. Et la surprise, Jordan Jegat, coureur chez Total Energy, qui termine 10e du classement général.
Si j'y arrive à faire top 10, il représente énormément de choses. J'espère que ça sera un tremplin dans ma carrière. J'y croyais pas forcément. Après, voilà, je lâche rien, même si je dis que c'était mort. Dans ma tête, il y a toujours un espoir. Faut toujours y croire et toujours tout donner. Après, voilà, forcément, c'était pas le top 10 aujourd'hui. J'aurais essayé de jouer la victoire d'étape, même si de base, c'était ce qui était prévu. Mais quand j'ai vu qu'on creusait, je me suis dit, on va aller chercher ce top 10.
Pour le reste, on retiendra que Romain Grégoire aurait pu gagner hier sans sa chute, ou le podium de Julien Lafilippe qui pensait avoir gagné la 15e étape. Pour Cédric Vasseur, manager de la Cofidis, les performances françaises sont liées à la concurrence trop forte.
Le cyclisme français se bat avec ses moyens. On peut pas le reprocher de tout donner. Je pense que chaque jour, les Français essaient. Mais à un moment donné, sur une course aussi difficile que le Tour de France, la volonté suffit pas. Il faut les jambes. Vouloir, c'est une chose. Pouvoir, c'en est une autre. Et je crois que le problème aujourd'hui de notre cyclisme, c'est le pouvoir.
Car entre les favoris avec Pogacar, les gros punchers avec Van Der Poel et les grands sprinters avec Jonathan Milan, c'est vrai qu'il ne reste plus beaucoup de place pour nos Français.
Merci beaucoup Maria, et si vous voulez voir Maria Azé, faut se rendre maintenant rue Le Pic à Montmartre pour lui faire un petit coucou. Hein, Maria, je suis sûr que tu as des fans là depuis 3 semaines.
Ouais, c'est une notoriété grandissante.
Elle dit pas non hein.
Ouais, bien sûr, Maria, elle adore ça.
Non, mais surtout,
on veut voir la pancarte.
C'était un super travail qu'ils ont fait.
Bah oui.
Vraiment, c'était un plaisir de les écouter.
Bravo.
Non, mais on le dit jamais.
C'est incroyable.
Merci, Fred.
Voilà. Bravo,
pas
Maria.
Pas Jérôme Coppel.
On a encore une étape à faire,
ouais,
Maria.
Attention, là. Il reste quand même l'étape. Merci beaucoup, Maria, et à tout à l'heure dans l'intégral tour, bien sûr, pour suivre cette dernière étape. Je rappelle la question, le Tour de France 2025 des Français est-il un échec? 32-16, pour nous rejoindre. N'hésitez pas dans les grandes gueules du sport ce matin. Sarah, toi tu as dit non. C'est pas un échec.
Oui, j'ai dit non parce que tu les as égrenés. Il y a quand même de belles choses qui se sont présentées sur le tour, notamment Kevin Vauclin qui fait quand même une très belle prestation. Alors le top 10 semble lui ouvrir les bras.
Septième, ouais.
Il y a cette victoire de Valentin Paré-Printe, elle nous a redonné un petit peu de baume au cœur. Après, quand j'écoute tous les spécialistes, on est dans une phase où il y a une jeune génération qui est en train de s'installer, en tout cas qui est à surveiller. Lenny Martinez fait quand même un très bon Tour de France.
Ouais, je n'irai pas jusque là quand même.
Doucement.
Non, son début a été catastrophique. Il a alterné le bon et le moins bon. Je ne peux pas dire ça, c'est pas possible.
Tu fais un bilan, évidemment. Les trois semaines de Tour, c'est enfin, je veux dire, de gérer cette course, elle est juste incroyable. Donc aujourd'hui, à la fin du Tour de France, tu dis Lenny Martinez a fait un bon Tour de France.
Ben non.
Je suis d'accord.
Bah, il n'y avait pas une victoire d'étape dans les jambes, par exemple, Lenny Martinez.
Ah, justement,
il n'est pas loin du maillot à pois.
Oui, mais il ne l'a pas.
Pas loin, tu ne récupères rien, tu ne gagnes pas une étape.
Il y aura cette étape.
Il y a cette histoire de bidon collé qui va lui coller, justement, à la peau.
Il s'est excusé.
Non, mais Jérôme, je sais bien que
là, c'est
quand même très délicat pour nous de parler de performances de coureurs qui s'invitent sur des terrains aussi difficiles. Lenny Martinez, évidemment, il a beaucoup de talent. Mais je vais me faire gronder par Jérôme. Moi, j'ai quand même un petit souci avec, la façon dont on instruit les performances de ces coureurs qui sont capables de courir à l'avant pendant toute une journée, mais qui disparaissent et qui prennent 10, 20 minutes le lendemain et qui sont comme ça sur courant alternatif. Lenny Martinez, on en attend beaucoup plus et peut-être pas forcément tout seul devant dans des étapes où les leaders le laissent partir. J'ai un problème avec ça. Et ça m'aurait posé problème que Lenny Martinez rapporte le maillot à poids à Paris.
Il y a quand même des stratégies sur le Tour de France qui sont difficilement compréhensibles. Aujourd'hui, il est quand même très difficile de partir en échappée. Il y a quand même deux équipes qui ferment les étapes. Le spectacle en général est quand même pas évident. C'est super dur de s'extirper d'une mainmise de la Visma ou de l'UAE quand ils ont décidé que personne ne partirait.
Ceci étant dit, qu'est-ce qui se passe?
Donc en quoi les Français seraient-ils
les équipes françaises sont où?
Mais les équipes françaises, elles n'ont pas les mêmes budgets.
Je trouve très généreux.
Elles ont deux coureurs dans le top 10.
Fred, et après Jérôme, tu pourras y répondre.
Alors, l'argument du top 10, j'ai une question à vous poser. Vraie question. En 2015, on avait un Français au top 10, c'était qui? Non, mais je sais pas, parce que vous vous semblez me dire que être dans le top 10, c'est magnifique, c'est génial. On va se rappeler des coureurs, c'est fantastique. C'était qui?
C'est Bardet, Perrault.
Non. Pinot. Pierre Roland.
Pierre Roland, bah oui. Alors,
Pierre Roland. Donc, juste la question. On est en train de tous s'extasier d'un top 10. Alors oui, c'est génial, on est content d'avoir des Français. Mais on n'est pas plus content quand on les voit lever les bras. D'une part, une seule victoire. Alors le Mont Ventoux, tout le monde, vous allez me dire, c'est fantastique. Oui, une seule victoire. Ensuite, on s'extasie pour un top 10 pour deux coureurs français. Et encore une fois, c'est magnifique et c'est très fort.
Mais sur les 5 dernières années, t'as pas
Est-ce que ça en fera des grands champions dont on se rappellera?
Je vais laisser parler Jérôme.
Jérôme.
Alors, je vais rebondir sur ce que vient de dire Fred. Alors déjà, pour moi, il y a un vrai problème, c'est qu'on ne valorise pas assez un top 10 sur le Tour de France.
Oui, mais Jérôme, t'as pas été capable de citer le top 10.
On se rend pas compte de l'effort. J'ai pas répondu. Quel Français a gagné une étape en 2023? Je te prends, il y a deux ans. 2023, c'est pas si loin. Est-ce qu'un Français a gagné une étape il y a deux ans. 2013, double montée de l'Alpe d'Huez. C'est quand même mythique, on l'avait jamais fait ça. Qui a gagné comme Français en haut de l'Alpe d'Huez?
David Riblon.
Ben voilà, on les retient.
Christophe Riblon, c'est pas mal.
Christophe Riblon, mais c'est son cousin.
Franchement, t'es dur, Jérôme.
Ah, il laisse rien passer.
Christophe Riblon.
Christophe Riblon.
Merci.
Mais Bien sûr, on a la mémoire courte et c'est la même chose pour le bilan qu'on fait cette année. L'année dernière, on a eu un Tour de France incroyable. Ça va pas nous arriver toutes les années de gagner trois étapes, de porter le maillot jaune. En 2023, Victor Lafay gagne la deuxième étape et on a David Godu qui est neuvième du général. On a une victoire et on a un seul Français dans le top 10. Alors qu'on avait des pointures. Godu 9e, Guillaume Martin 10e, Thibaut Pinot 11e.
Donc on doit se contenter de ça, c'est ce que tu es en train de dire.
Romain Bardet. Mais...
Oui, alors mais moi je
on doit se contenter de ça parce que tu es en train de dire que voilà, c'est dans la logique d'avoir une seule victoire d'étape pour les Français.
Il faut remettre dans le contexte, il y a que 9 équipes qui ont gagné sur ce Tour de France. On n'a plus des Thibaut Pinot, des Romain Bardet au départ du Tour, on mettait pas une pièce, pas un billet sur un coureur dans le top 10. À la fin du tour, un des tours les plus durs de ces dernières années, on va avoir deux coureurs dans le top 10 et une victoire d'étape. Et quelle victoire d'étape en haut du Mont Ventoux? Bien sûr qu'ils auraient certainement pu mieux faire, nos coureurs français. Mais au bout du compte, on en a deux dans le top 10, on en a un qui a gagné. Fred, tu parlais d'équipe. La quatrième équipe au classement général, c'est Arkea BNB. La cinquième, c'est Decathlon AG2R. Decathlon AG2R, c'est une équipe française. Ils ont un coureur qui est top 5. C'est un Autrichien, mais c'est quand même un coureur d'une équipe française. Donc, quand t'as deux équipes au classement général par équipe qui sont dans le top 5, ça montre un savoir-faire français. Ça, c'est des performances qui sont invisibles aux yeux du grand public ou des non-connaisseurs.
Mais oui, mais c'est ça qui est important. Mais c'est là que je te rejoins pas, Jérôme. Oui, je comprends ce que tu veux dire et je comprends les performances. Et quand on nous pose la question, est-ce que c'est un échec? On nous demande de trancher. Et évidemment que je pense pas que c'est un échec, mais je peux pas non plus dire que c'est une réussite. Je pense que c'est un peu un entre-deux. Et je suis un peu déçu par rapport, effectivement, au tour de l'année dernière. L'année dernière, j'ai plus rêvé.
Oubliez pas quelque chose, les gars. Oubliez pas quelque chose, c'est qu'au départ du tour, il y a 21 étapes. Il y a 188 coureurs. Il y a que 21 chances de gagner. Il y a qu'un mec qui gagne. Tennis pour Sarah, toi, Fred, basket, etc. Il y a deux équipes. Vous avez 50% de chances de gagner. Quand vous êtes au départ du tour, c'est pas la même chose. Et vous avez des équipes énormes qui raflent tout. Soudal en a 4, UAE en a 5, Alpecin a 3 victoires. Il laisse rien aux autres. Donc nos Français, ils se battent avec leurs armes et avec les armes qu'ils ont, bah, le tour est plutôt pas mal.
Simon.
Bah, là où je rejoins totalement Jérôme, c'est que le bilan et la note que tu mets, elle est fonction des attentes que tu as au départ. Et Jérôme l'a rappelé, on est quand même dans un creux ou une transition générationnelle. Thibaut Pinot n'est plus là, Romain Bardet n'est plus là, Alaphilippe n'est plus le Alaphilippe dominant qu'il a été. Donc encore une fois, l'an dernier, on se souvient des victoires d'étape de Bardet, du jaune, la victoire de Turgis, elle est exceptionnelle. Le seul Français, le premier Français, c'est Guillaume Martin, qui est 13e. Si encore une fois, Jérôme l'a rappelé, on nous avait dit au départ du tour qu'un Kevin Vauclin, un Jordan Zegat, qui étaient inconnus du grand public. Vauclin, il fait deux au Tour de
Suisse. Vauclin, il avait gagné une étape sur le Tour de France.
Oui, non, mais je veux dire,
qui avait quand même permis de gagner en notoriété aussi.
Au départ du tour, on peut se refaire les commentaires. Personne ne met Vauclin top 10 et personne n'aurait imaginé que après le premier chrono, il serait top 3 pendant quelques jours.
Oui, mais Fred a le droit de dire qu'il aurait préféré le voir lever les bras à nouveau et gagner une étape plutôt que de voir se battre toute la semaine.
Jérôme l'a rappelé, sur un parcours aussi difficile, je veux dire, ok, il est à 20 minutes, mais c'est absolument remarquable. Combien de coureurs il a laissé derrière lui. Oui, le petit regret, en revanche, c'est que jusqu'à ce que Alaphilippe nous lève les bras en pensant qu'il a gagné.
L'étape est fantastique.
Oui, l'étape est fabuleuse. On n'avait fait aucun podium dans aucune des étapes. Par épeintre, tu l'as rappelé, Sarah, c'est quand même bon sur une étape iconique. Évidemment, ça sauve la carte postale d'ensemble du tour, mais l'absence de victoire d'un coureur d'une équipe française, je trouve que voilà, c'est le petit point noir et en effet on peut le regretter. Mais pour terminer, pour finir sur Lenny Martinez tout à l'heure, moi je rappelle quand même que Lenny Martinez, on nous vendait quand même un possible podium dans les années futures. Il a quitté FDJ pour signer un très gros contrat dans une équipe étrangère, qui je pense attend beaucoup plus d'un Lenny Martinez que ce qu'il a prouvé sur ce Tour de France.
Je sais pas ce qu'en pense Jérôme là du Tour de Lenny Martinez. T'avais l'air pas d'accord quand on critiquait un petit peu les performances du Français de Bahreïn.
Non, mais je crois on oublie un petit. Je suis d'accord avec Simon sur pas mal de points, mais je crois qu'on oublie un petit peu que Lenny Martinez n'a que 22 ans. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est son deuxième Tour de France, mais il a que 22 ans. Il est, oui, sur ce Tour de France, sur courant alternatif. Il a un vrai problème de concentration au début du tour, surtout. On sent qu'il est un peu sur sa planète, hein, Lenny. Des fois ça va, des fois ça va pas, mais avec l'âge, la maturité et l'expérience, il va gagner en consistance et en régularité. Ce qui est très dur sur le Tour de France, c'est la plus grande course du monde, c'est la seule course où 100% des coureurs arrivent au départ motivés à 100% de leur forme, et vous ne pouvez pas courir deux lièvres à la fois. Lenny Martinez, il disait « oui, je veux une victoire d'étape et peut-être j'aurai le maillot à poids, etc. » Ben, on se rend compte que c'est pas possible. Donc soit tu vises le maillot à poids comme il a fait et éventuellement tu rentres Fanny, ce qui se passe pour Lenny, ou tu vas essayer d'aller chercher une étape, mais tu fais une croix sur ton maillot à poids. Parce que quand il va faire son raid solo au Tourmalet, c'est uniquement pour le maillot à poids. Ouais. S'il va, et c'était plutôt bien joué d'ailleurs, mais s'il fait pas ces efforts-là, bah peut-être qu'il est dans le final avec les autres. Mmh. Donc il a que 22 ans, il a pas encore la caisse pour pouvoir faire des numéros en début d'étape et être là dans le final. Ça demande quelques années, ça demande du temps, ça demande d'enchaîner les grands tours, d'enchaîner les courses à haut niveau. D'ailleurs, on le voit, Lenny peut pas encore être performant sur les courses de 3 semaines, puisque sur les courses d'une semaine, alors le Romandie ça a été, mais par exemple le Dauphiné, il a toujours un trou d'air à un moment donné. Mais c'est normal, il a que 22 ans pour l'instant. Faut qu'il fasse ses armes. Maintenant, on sait qu'il a voulu partir à l'étranger. Alors Simon, tu dis pour l'argent, c'est en grande partie pour l'argent.
J'ai pas dit pour l'argent, mais on lui a offert un beau contrat. Équipe.
Non, mais le beau contrat.
Non, mais moi, à sa place, bien sûr, à sa place, j'aurais fait la même chose.
Je critique pas du tout. Je dis juste que c'est quand même souvent le signe qu'on place beaucoup de confiance, tu vois, dans un coureur quand on lui offre un beau contrat.
Bien sûr, et justement, quand on t'offre un bon contrat à l'étranger, ils ont un petit peu moins de patience qu'en France. Mmh. En France, on laisse le temps. À l'étranger, tu viens, on te donne beaucoup d'argent, faut répondre à leurs attentes, faut performer. Mmh. À mon avis, l'équipe Bahreïn est plutôt satisfaite de Lenny parce qu'il s'est battu, etc. Mais dans les 2-3 ans à venir, c'est pas ce qu'ils attendent de Lenny Martinez. Ils attendent qu'il fasse top 10, top 5 et bientôt le podium et éventuellement gagner un grand tour. Mmh. Donc Lenny est encore en apprentissage. Je pense qu'il avait mieux à faire sur ce Tour de France. Ouais. Je pense qu'il avait éventuellement une victoire d'étape dans les jambes. Ce qui n'est pas forcé. Alors, si je peux me permettre de rapidement rebondir sur Kevin Vauquelin. Kevin, il a gagné une étape l'année dernière. Pour moi, cette année, il fallait absolument qu'il se concentre sur le top 10. Pour son évolution de carrière, pour sa progression, il fallait qu'il soit... Enfin, qui se battent pour un top 10. J'ai lu beaucoup, oui, il aurait dû perdre 10-15 minutes dans Otakam pour aller gagner une étape. Mais s'il fait ça et qu'il gagne pas d'étape, qu'est-ce qu'il aura appris, Kevin Vauquelin, sur ce tour? Bah, rien du tout, parce que gagner une étape, il sait le faire, il l'a déjà fait. Mmh. Par contre, se battre pour un top 10, il ne l'avait encore jamais fait. Et il aura beaucoup plus appris en faisant le tour qu'il a fait cette année qu'en se relevant et en essayant de gagner une hypothétique étape.
Voilà. Bon bah écoute, merci Jérôme, tu vas rester avec nous parce que Jérôme, dans un instant, clair, on va quand même continuer le débat avec vous au 32-16. On a Michel qui nous attend déjà au 32-16. Le Tour de France des Français est-il un échec? Visiblement, Fred Weiss est dans les cordes. Est-ce qu'il va réagir? Bah on va le savoir dans une minute sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
9h30 sur RMC, le retour dans les grandes gueules du sport. Simon Dutin, Sarah Pitkovski, Fred Weiss et Jérôme Coppel qui vient nous voir ce matin, membre de la Dream Team Vélo, évidemment, puisqu'on parle du Tour de France. Est-ce que ce Tour de France 2025 est un échec pour les Français? Dans un instant, il y aura le zapping des GG et on parlera évidemment du Tour de France femme, hein, avec la première étape que l'on a pu suivre hier sur RMC. Avant de revenir sur notre débat avec vous, on va accueillir Michel qui a fait le 32-16, qui est avec nous sur RMC. Bonjour Michel.
Ouais, salut les grandes gueules.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que tu penses de notre débat? Est-ce que tu nous trouves trop durs avec les Français?
Bon, bien sûr, vous êtes trop durs avec les Français.
Bah vas-y, on t'écoute. Pourquoi?
Il y a encore une étape. Bon, je pense pas qu'aujourd'hui c'est un Français gagne, mais une victoire d'étape, finalement, c'est le minimum qu'on attend sur un Tour de France. Si je dis pas de bêtises, il y a eu que 2 Tours de France où il n'y a pas eu de victoire française.
Oui, c'est ça.
26 et 99. Oui. J'ai révisé. Déjà, ça me paraît un exploit, parce que, et puis ces 10-15 dernières années, le niveau est monté, Et on a l'impression que c'est normal de gagner une victoire d'étape. Non, c'est pas normal. Parce qu'il faut que toutes les planètes soient alignées. Il faut avoir la soquette, il faut marcher, il faut être dans l'échappée, parce qu'on n'a pas de sprinter, on n'a pas de leader en général. Et après, il faut avoir la réussite. Donc, c'est pour moi, oui, c'est une victoire. C'est ce qu'on attend au minimum. Et après, on a quand même deux Français dans les 10. Alors, on a beaucoup parlé de Vauclin. Je trouve qu'on est assez injuste avec Jéga parce que il fait un super tour et beaucoup de focus sur Vauclin. Et puis on a quand même Guillaume Martin qui doit être 15 ou 16.
Ouais.
Et d'ailleurs, j'avais lu une interview de Guillaume Martin qui disait que il trouvait injuste qu'on valorise pas les coureurs du général parce qu'aller faire un top 20 dans le Tour de France, c'est juste une performance énorme et on n'en parle pas.
Non mais effectivement, moi ça c'est ce qu'on disait en tant que grand public. Ce que disait Fred, c'est vrai que t'as envie de voir ces coureurs français plutôt lever les bras lors d'une arrivée d'étape plutôt que de se battre pour la 10e, 12e, 15e place. Même si évidemment, ça veut pas dire qu'on trouve pas ça exceptionnel.
Mais c'est évidemment exceptionnel. Mais non mais bien sûr, objectivement, c'est évidemment exceptionnel. Mais sauf que ça marque forcément moins les esprits et qu'on est plus content quand on voit des Français lever les bras. Et quand tu dis c'est le minimum syndical, ben quand on fait le minimum syndical, on ne peut pas considérer qu'on ait fait un grand tour. On a fait le minimum syndical.
Tout à fait. Alors finalement, je me suis amusé en écoutant le débat, j'ai tapé sur ChatGPT ce qu'il pensait. Alors, il pense que c'est un tour mitigé, la réussite pour les Français est mitigée.
Voilà. Rappelle-moi ChatGPT.
Merci ChatGPT. Voilà.
Et j'ai tapé aussi finalement, qu'est-ce qu'on entend par échec? C'est le fait de ne pas atteindre un objectif, un résultat exprimé, attendu. Mais finalement, quel était l'objectif? On peut dire qu'une victoire française, on aurait peut-être signé. Deux Français dans les 10, on aurait signé dès demain. Donc ça veut dire que peut-être que l'objectif est atteint.
Bon bah écoute, si ChatGPT maintenant s'invite dans les débats des grandes gueules du sport,
y a pas de problème, on va rentrer à la maison.
On n'a plus besoin de nous.
Ouais.
Hein Michel, qu'est-ce que t'en penses?
Je trouve ça hyper intéressant l'IA, je m'amuse avec.
Bon écoute, t'as raison de t'amuser, tu fais ce que tu veux.
Et puis après, j'avais appelé aussi hier quand vous avez fait le débat sur la domination, notamment des UAE.
Ouais.
Moi j'ai 54 ans, donc en 84, je sais pas quel âge j'avais, j'étais pas très grand, disons, j'ai 15 ans.
Bah demande à ChatGPT.
Je me souviens, l'histoire Signon 84. Oui. Il y a eu 10 victoires françaises uniquement de l'équipe Renault et Signon avait gagné 5 étapes.
Ouais.
Voilà, c'est un peu ce qu'on a aussi dans nos têtes, les Français, le Tour de France.
Bah tiens, puisque tu donnes des chiffres, Michel, merci beaucoup d'être passé. Puisque tu donnes des chiffres, quand même, les Tours de France qui se sont terminés par une victoire française, il n'y en a que 11. Si jamais on compte celle qui arrive, là, peut-être qu'il y aura une victoire
aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il se termine par une victoire française.
Par une seule victoire française.
Ah oui,
il y en a que 11 sur 112 éditions. Donc c'est très rare. Alors certes, c'est de plus en plus le cas parce que peut-être qu'on est dans un creux. 2021, 2022, 2023, 2025, peut-être cette année.
Ouais.
Voilà, ça fait. Mais il y en a que 11, hein. Donc habituellement, on a quand même plus de chances de voir un Tour de France avec. 2, 3, 4 victoires françaises.
C'est plutôt rare et donc ça veut dire que on peut pas considérer que ce soit une réussite ce Tour de France. Ouais. On peut considérer une nouvelle fois. Je pense que dans la question vous êtes comme d'habitude un petit peu dur et vous êtes un peu clivant.
C'est la faute de Kylian Verhoeven qui est le producteur.
C'est dur de dire c'est un échec parce qu'effectivement t'as deux Français dans le top 10 etc. Mais une seule victoire tu peux pas non plus t'en féliciter et c'est
mais
quelque
chose.
Mais on
s'en félicite pas.
Mais c'est pour ça que échec c'est dur. Mais réussite, c'est encore pire.
Mais on est dans un entre-deux un petit peu. Oui, mais la question c'est est-ce que le Tour de France des Français est une réussite? Là, on aurait tous répondu non catégoriquement, de manière catégorique.
Bah, ça m'intéresse, tiens, de demander ça à Jérôme. Si on retourne la question, est-ce que c'est une réussite pour toi, Jérôme?
Est-ce que c'est une réussite? J'aurais dit non aussi.
On est tous d'accord, mais quand on dit est-ce que le Tour de France des Français est un échec, c'est là où les choses ou en tout cas les arguments se valent. Oui, une victoire d'étape de coureurs dans le top 20, c'est pas un échec, mais c'est pas pour autant une réussite. Dans le top 10, mais c'est pas pour autant une réussite. Et t'es en train de revenir vers nous.
Mais non, pas du tout, c'est ce que je réponds depuis le début. Je dis c'est un entre deux.
Mais tu réponds pas la bonne question.
C'est ce que je dis depuis le début. Quand la question est posée, et c'est une nouvelle fois la volonté des grandes gueules du sport, et je pense que tu connais bien l'émission, Sarah, c'est d'être le plus clivant possible. Donc quand tu te poses la question là, tu peux pas réellement dire que c'est un échec. Mais je dis oui, justement, pour entraîner du débat et pour expliquer que tu peux pas dire que c'est une réussite non plus. plus. Mmh. Tu veux pas t'enthousiasmer, tu veux pas être satisfait. T'as envie de plus, t'as envie de voir des Français lever les bras, t'as envie de voir des Français en maillot jaune. J'ai donné le tour de l'année dernière, m'a beaucoup plus enthousiasmé que celui-là, en général, et pour les Français
mais
aussi.
Mais si t'avais écouté toute l'équipe d'RMC, aujourd'hui, quand écoutes les commentaires, je trouve que...
Ils sont très bons.
Oui, ça, ils sont très bons, mais qu'on nous laisse entendre qu'il y a une vraie relève, en tout cas qui est en construction. Donc, je trouve qu'il y a des
choses. Oui, mais c'est à l'instant T qu'on nous demande ce qu'il en est. On nous demande pas ce qui va se passer dans 10 ans. Moi, j'ai pas de boule de cristal, Sarah. Je sais pas si tu en as une. Je n'ai pas la chance d'avoir une boule de cristal. Et de fait, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, je juge ce qui s'est passé jusque-là et je peux pas être satisfait.
Bon, alors, justement, tiens, puisque vous parlez d'avenir, l'avenir, ça sera peut-être très bientôt pour les coureurs français. Il y a notamment donc cette équipe qui va se monter à partir de janvier prochain, Decathlon CMA-CGM, CMA-CGM propriétaire de BFM et d'RMC, qui s'associe à Decathlon pour une équipe avec de l'ambition. Ce sont les mots.
Que nous aussi, on va devoir pédaler?
Peut-être, oui. C'est possible. Ce sont les mots de Dominique Sériès, qui est le patron de Decathlon, que l'on a pu interroger lundi, puisque c'est une annonce qui date de lundi dernier. Une équipe avec des grandes ambitions, tournée autour d'un certain Paul Sexas. Écoutez Dominique Sériès.
Les objectifs que nous sommes fixés, ce sont des ambitions fortes. Il y a cette détermination et en tout cas cette volonté de performer, de gagner. Donc sur un plan sur 5 ans, avec aussi des ambitions, bien entendu, sur les grands tours, dont le Tour de France, avec des ambitions aussi sur les classiques, sur le sprint, sur le classement général, mais pas que. Gagner Paris-Roubaix, Milan-San Remo, il y a aussi des courses qui marquent, je dirais, l'histoire du cyclisme français et du cyclisme international, avec un coureur français, 40 et quelques années que c'est pas arrivé, mais aussi avec des coureurs internationaux, parce que ce sont des entreprises françaises qui sont fortement impliquées à l'international, donc c'est important que là aussi, des coureurs non français performent et rayonnent à l'international. Et surtout avec un objectif 2030, qui est de gagner le Tour de France.
2030, objectif gagner le Tour de France avec donc ce Paul Sexas. On en a parlé évidemment sur l'antenne d'RMC. Mais on voulait t'en parler.
Oui, parce qu'ils connaissent. Moi, je suis un petit peu.
Jérôme, dans les grandes gueules, forcément, ce Paul Sexas. Alors, on parlait de l'âge de Lenny Martinez. Lui, il est encore plus jeune, 18 ans. Mais voilà, tout le monde dit que c'est le futur. Potentiellement, il a le potentiel pour être un des futurs vainqueurs du Tour. C'est ton avis aussi?
Alors ça c'est... Ah oui, clairement. Alors je le connais bien, Paul Sexas. Je peux vous dire que là, on a une pépite. Ça fait 40 ans qu'on attend le successeur de Bernard Hinault. On a annoncé beaucoup de coureurs comme potentiels successeurs. J'en ai fait partie alors que moi-même, je savais très bien que j'allais jamais pouvoir gagner un Tour de France. Mais là, on a un coureur qui peut... vraiment sur ses qualités intrinsèques, sur sa puissance et voilà, sur les résultats qu'il a déjà fait dans les catégories très jeunes juniors. Je rappelle qu'il est champion du monde chrono junior, qu'il a quasiment tout gagné en junior. Là, oui, on a un vrai coureur capable de gagner le Tour parce qu'il est complet, parce que il passe pro cette année à 18 ans. Je vous rappelle, normalement, en vélo, donc on a les catégories juniors jusqu'à 18 ans. Après, on a la catégorie espoir, moins de 23 ans. Et à une certaine époque, on nous disait, faut faire 2-3 ans chez les espoirs pour prendre de la caisse avant de passer chez les pros. Maintenant, depuis Remco Evenepoel et d'autres, ces jeunes talents, ils sautent la catégorie espoir et ils passent direct de junior au pro tour. C'est ce qu'a fait Paul cette année avec beaucoup de succès, puisque il a déjà fait quand même 8e du classement général d'un Dauphiné libéré. Il a laissé une victoire d'étape au Tour des Alpes à son coéquipier. Et on sent bien dans les propos de Dominique Sériès que le projet Decathlon CMA-CGM est vraiment tourné autour de Paul Sexas. Ils se donnent 5 ans pour aller gagner le Tour. Eux, ils ont toutes les datas de Paul depuis qu'il fait du vélo, depuis minime, cadet, junior, etc. Donc ils savent très bien de quoi il est capable. Et ils savent jusqu'où ils peuvent l'emmener. Et d'après la courbe de progression, si Paul se fait pas manger par les petites bêtes, il devrait arriver en 2030 au top de sa forme. Il aura 24 ans. C'est là où beaucoup de coureurs gagnent leur premier Tour de France. Donc oui, là, on a une vraie chance française. Je veux pas lui mettre trop de pression.
Apparemment, il est bien câblé en plus. Apparemment, c'est quelqu'un
Très bien. Ouais, dans sa tête, il est très bien. Il sait où il veut aller. Vous savez, vous avez des coureurs qu'on a programmés un petit peu comme ça. Je pense à Thibaut Pinot. Mais qui, je sais pas si Thibaut avait vraiment l'envie de gagner le Tour avec tout ce que ça allait engendrer à côté. Ça allait changer sa vie.
Là, tu es certain que Paul
Sexas, il est programmé pour ça.
Non, qu'il soit programmé, c'est une chose. Mais tu disais toi dans ton témoignage que on espérait ou on attendait de toi que tu puisses gagner le Tour de France. Mais au fond de toi, tu savais que c'était pas le cas. Paul Sexas, lui, tu penses qu'il est convaincu qui peut gagner le Tour de France ?
Tout à fait. Tout à fait.
Donc c'est pas juste des regards extérieurs.
Non, c'est pas juste des regards extérieurs. Lui est convaincu de ça. C'est les champions, ils veulent gagner les grandes courses. Il veut gagner le Tour de France, mais c'est pas le pimpin qui se lève un matin, qui monte sur son vélo, puis qui dit tiens, j'ai envie de gagner le Tour de France dans 2 ans. Il a déjà tout gagné chez les juniors. Il sait très bien où il veut aller et son équipe sait. Son équipe, maintenant, on mesure tout. C'est pour ça que on n'a pas entendu dans l'interview de Dominique Seriès, mais il dit déjà que Paul Sexas devrait être sur le Tour de France en 2026. Il l'a dit dans notre camion en studio RMC. C'était quand même une sacrée info. Et moi, j'étais tellement content parce que la veille, j'en parlais. Je disais, s'ils veulent gagner le Tour de France avec un Français, avec Paul Sexas, ils doivent le mettre sur le Tour de France le plus vite possible. Et qu'on arrête de me dire, on va le cramer. Maintenant, on mesure tout. Ils mesurent la moindre cacahuète qu'ils vont mettre dans leur assiette, les watts, etc. Donc, si tu crames un coureur, c'est que les entraîneurs et le staff ont mal fait le boulot en amont. C'est pas d'aller faire le Tour de France à 19 ans qui va te cramer. Mais si tu veux gagner le Tour de France, tu peux pas dire, faut arrêter avec cette fausse idée. On va le mettre à la Vuelta, au Tour d'Espagne. Il va apprendre tranquillement parce qu'il y aura pas de pression.
Mais tu veux dire qu'on a surprotégé les coureurs jusque là, Jérôme? On les a surprotégés?
Bien sûr. On les a, ça a toujours été le cas. Alors, peut-être pas dans tous les sports en France, j'en sais rien, mais moi, dans les sports que j'ai pratiqués à haut niveau, le ski de fond, le vélo, c'était ça. Faut pas trop faire de kilomètres quand on est jeune, on va vous cramer. Faut pas trop faire d'heures d'entraînement, on va vous cramer, etc. Mais ça, c'est maintenant fini. On peut tout mesurer. Si Paul Sexas, l'année prochaine, fait le tour et qu'après il est cramé, c'est pas le tour qui l'aura cramé, c'est tout l'entraînement, les stages, etc. qui l'aura fait avant. C'est pas juste le Tour de France. Donc faut arrêter avec ça. S'il veut gagner le Tour de France, il faut aller faire le Tour de France. T'as beau faire 18 Giro, 15 Vuelta, ça n'a rien à voir avec le Tour de France. Ouais. La pression médiatique, les spectateurs, etc. Tu dois prendre de l'expérience sur la course que tu veux gagner. C'est comme ça, c'est comme si Sarah, un tennisman, dit « Moi, je veux gagner Roland-Garros », mais tu mets jamais les pieds à Roland-Garros jusqu'au moment où tu te sens prêt et tu débarques à Roland-Garros en disant « Bah voilà, c'est ma première participation, mais je vais la claquer ». Pas tout le monde est Raphaël Nadal. Et ben en vélo, pas tout le monde peut gagner le Tour à sa première participation.
Bah parfait. Bah écoute, tu nous as donné envie de regarder le Tour et d'écouter le Tour, surtout sur AMC l'année prochaine. Hein.
Bien sûr.
Et là, on sera exigeant dans les grandes gueules du sport. Attention.
Faut que je sois sélectionné. Tu sais, la sélection en interne chez AMC pour être consultant est difficile.
Tout se joue peut-être sur cette dernière étape.
Si on peut virer Jérôme Pizot, nous on est d'accord.
Non, mais si t'offres un beau resto à Christophe Cessieux, je pense que tu devrais être reconduit.
Ah oui, mais est-ce que Christophe Cessieux sera reconduit? C'est la question.
Suffit d'une dame blanche pour Christophe Cessieux et c'est bon.
Bon, en tout cas, dernière étape.
Mais le dessert, hein, Sarah, le dessert.
Oui, bien sûr, évidemment.
Un pronostic, Jérôme, pour qui gagne cet après-midi, ce soir. Il est fou, François.
Je vais en donner deux. Mon favori, c'est Wout van Aert, mais qui j'aimerais voir gagner, Tadej Pogacar avec le maillot jaune.
Ah, d'accord.
Est-ce qu'il va se lancer,
Et je pense
Pogacar.
Que c'est possible.
Bah, écoutez, on fera ce débat une autre fois. Merci beaucoup, Jérôme.
Salut, Jérôme.
Et on va parler, évidemment, de cette dernière étape. Ça sera à 11h dans les grandes gueules du sport. On va parler de Montmartre et pourquoi pas, bah, justement, de qui peut gagner cette dernière étape. Intégral Tour à suivre à 17h aujourd'hui sur RMC. On va continuer à parler du Tour de France femme, cette fois, dans un instant. C'est dans le zapping des GG. Vous restez avec nous sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
9h47, les grandes gueules du sport ce matin. Sarah Pitkovski, Fred Veil, Simon Dutin. À 10h, n'oubliez pas notre bras de fer autour de ce retour dans le staff de Yannick Sinner, le préparateur physique qu'il avait renvoyé après son affaire de dopage, a été réembauché. Est-ce que le numéro 1 du tennis se moque de nous? 32-16 pour nous rejoindre dès maintenant et pour parler de ce débat. Mais d'abord, c'est l'heure du zapping.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Vous connaissez le principe, je vous donne des infos, vous me dites si ça vous intéresse ou non. Si oui, vous parlez, sinon vous passez votre tour. Pauline Ferrand-Prévot, troisième de la première étape du Tour de France femme. On s'en fout pas. Fred Weiss.
On s'en fout pas.
Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Sarah Pitkovski. On s'en fout pas. On et avec le micro pas. Non plus, ouais, on s'en fout pas. La Française de chez Visma termine troisième à Ploumélec. C'est Marianne Vos, sa coéquipière, qui s'impose et qui s'empare du maillot jaune. Et Léna Marjac a commenté cette course pour nous. Elle est avec nous en direct dans les grandes gueules. Salut Léna.
Salut François, salut tout le monde.
Léna, salut.
Même Pauline Ferrand-Prévot, on a presque cru à la victoire de Pauline Ferrand-Prévot à un moment donné, hein, Léna.
Bah, elle aussi, hein.
Ah bah elle aussi, je pense. Ouais, c'est clair.
Bah, elle s'est posé la question quand même, Léna, à un moment.
Comment ?
Elle s'est posé la question à un moment de se dire si elle continuait toute seule.
Ouais, elle s'est posé la question après. Alors malheureusement, j'ai pas pu être à son bus pour avoir sa réaction, mais elle nous disait qu'elle était, elle a dit en tout cas à mes collègues qu'elle avait été au max en fait à ce moment-là, et donc elle était un petit peu juste sur la fin, mais en tout cas le plan c'était quand même qu'elle roule pour sa coéquipière Marianne Vos, donc c'est exactement ce qui s'est passé hier. Mais on la voit lever les bras aussi, Pauline Ferrand-Prévot, sur la ligne d'arrivée, parce qu'évidemment très très contente de ce qui s'est passé hier, et elle réalise vraiment un numéro exceptionnel, hein, Pauline Ferrand-Prévot, parce que à 600 mètres de l'arrivée, elle attaque, elle arrive quand même à prendre pas mal d'avance. Mais ce que je viens de vous dire, c'est voilà, c'est que dans la côte de Cadoudal, les derniers mètres étaient vraiment assez pentus, donc là, l'effort était peut-être un petit peu trop intense, et donc elle se fait reprendre. Alors malheureusement, elle se fait reprendre, c'est oui et non, puisque on l'a dit, hein, c'est Marianne Vos qui récupère du coup le maillot jaune. Marianne Vos, sa coéquipière de chez Visma, Lisebike, et Ferrand-Prévot donc prend cette troisième place de cette première étape. Et dire quand même qu'on avait des doutes, et elle aussi son état de forme, je crois que là le message il est clair, il faut compter sur elle pour le général, et vous pouvez l'écouter à son arrivée de l'étape hier. Grand sourire pour Pauline Ferrand-Prévot.
Ouais, le final, mais aussi toute la course avec les filles, elles ont fait un boulot incroyable dès le début de course, c'était vraiment cool, il y avait du monde sur le circuit, j'ai vraiment pris du plaisir. À la fin, on s'est retrouvé bien devant comme on avait prévu. C'est vrai que voilà, je savais pas trop quoi faire dans la bosse. Je me suis dit voilà, c'est mieux de faire un bon tempo pour Marianne, que je fasse travailler les autres pour que Marianne puisse derrière faire son sprint. Le plan s'est déroulé à merveille, donc c'est très très bien. Non, j'étais vraiment à fond, j'ai pas fait semblant.
Et aujourd'hui, c'est deuxième étape entre Brest et Quimper, étape 100% finistérienne avec voilà 100 un peu plus de 110 km de course, et c'est une nouvelle étape accidentée avec quatre difficultés répertoriées, notamment le Ménez Keller, c'est une belle bosse, hein, 3 km de montée à plus de 6% de moyenne, et là encore une arrivée dans le dernier kilomètre à Quimper en montée, et c'est une nouvelle étape qui pourrait sourire de nouveau à l'équipe Visma Lisebike, alors soit avec Pauline Ferrand-Prévot, soit Marianne Vos quand même, qui est un petit peu plus favorite pour une arrivée pareille, mais aujourd'hui on pourrait encore revoir les Visma à l'avant, donc pour cette deuxième étape du Tour de France femme.
Pauline Ferrand-Prévot, ça vous a plu ce qu'elle a fait hier ?
Moi, ça m'a plu, mais je... En fait, même les commentateurs du diffuseur, ils pensent à la victoire de Pauline Ferrand-Prévot, comme dit Jérôme Coppel, elle met une cacahuète à un kilomètre de l'arrivée, et elle arrive à se détacher alors que ça roule très 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 fort. Et au final, bon, ils disent elle va peut-être pas gagner finalement, bon, parce qu'elle se fait rattraper, et finalement on nous transforme ça comme si elle avait attaqué pour préparer la victoire de Marianne Vos, qui est quand même une immense championne. Je crois que c'est 250e victoire ou quelque chose comme ça dans sa carrière. Donc finalement, et on la voit tellement heureuse que sa coéquipière ait gagné, qu'on finit par se demander si c'était vraiment un travail d'équipe ou si elle a vraiment joué sa carte pour aller remporter la victoire. C'est le seul truc qui me pose un petit peu problème.
C'est pour ça que je posais la question, Léna, parce que j'ai vu des déclarations de Pauline qui se demandait en fait si Marianne Vos allait revenir, et qu'elle s'est posé la question à moi en disant mais est-ce que je dois continuer toute seule en fait.
Oui, mais elle donne quand même l'impression de coincer un tout petit peu quand même.
Heureuse à la fin et de voir son état de forme. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle soit pas vraiment très en forme, et voir son état de forme, c'est bien. On la voit heureuse à la fin. Moi, je signe tout de suite. Hein,
c'est surtout merci Pauline Ferrand-Prévot. Elle donne un éclairage sur ce Tour de France féminin qui est exceptionnel. Bien et ça. Avec cette première étape où elle confirme qu'on va jouer avec elle, en tout cas qu'elle va jouer son rôle, que ça soit peut-être des victoires d'étape, mais probablement pas la victoire finale, parce
après,
que
pas
ça
n'a
pas l'air d'être programmé comme ça. Non, mais justement, c'est pas programmé comme ça. Mais mine de rien, elle donne un
coup de boost. Il se passe un truc à chaque fois quand elle est dans
exactement,
dans une
elle donne un coup de boost et un coup de notoriété. Ouais. Et je pense que ce Tour de France féminin va marquer les esprits du grand public. Donc bravo à elle.
Bravo et merci, Pauline.
Et bravo et merci.
C'est ce qu'on dit. Ça sera pas un échec pour les Français.
On dit déjà merci.
Ça sera pas un échec pour les Français, c'est ce que Sarah est en train de dire.
On fera le débat la semaine prochaine.
Je suis pas là la semaine prochaine.
Deuxième étape, donc on l'a dit, entre Brest et Quimper, que l'on suivra avec toi, Léna, dès 12h30, le départ. Merci beaucoup, Léna, d'être passée dans les grandes gueules, et à tout à l'heure. Les épéistes françaises, championnes du monde hier, à Tbilissi, en Géorgie. On s'en fout pas. Sarah Pitkowski.
Je m'en fous pas, mais j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est un peu historique. Je crois qu'une médaille d'or en épée revient depuis Laura Flessel.
Elle s'en fout pas, mais quand même, elle dit
ça. Mais non, mais parce que je suis fou. À part te dire ce que j'ai lu, je vais pas apporter un grand commentaire.
Simon Dutin.
Je m'en fous pas, mais grand bravo, voilà.
pas mieux. Fred Weiss.
Je m'en fous pas, enhorabuena, comme disait l'espagnol.
Non, en fait, tu t'en fous. Dis la vérité, arrête un peu.
Et soyons sincères, je m'en fous complètement.
Non, mais c'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est vrai que ça passe un petit peu en dessous des radars, là, ces championnats du monde d'escrime, ce qui est quand même dommage alors qu'on a quand même une belle équipe, on a des escrimeurs de qualité, c'est un sport sur lequel enfin on peut compter quand même sur les Français.
Oui,
c'est
quoi ce procès, t'enflamme pas non plus.
C'est quoi ce procès que tu nous fais là, moi, cette semaine dans l'intégral sport, j'ai eu Max Potti, un ami de la maison, il a fait 3e
au fleuret individuel. Parce que c'est un ami de la maison et bravo.
Ah non, parce que c'était la première médaille de la
délégation. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, voilà, c'est pour ça que je voulais en parler dans les grandes gueules du sport.
J'ai connu une époque l'escrime, tu savais pas ce que c'était.
J'en ai fait, s'il te plaît, excuse-moi, j'en ai fait.
D'accord.
J'en ai fait 6 mois, mais j'en ai fait. Oh, c'était à l'époque, il y a longtemps. En tout cas, premier titre pour la France lors de ces mondiaux à Tbilissi. On va citer les 4 épéistes françaises championnes du monde, Alexandra Louis-Marie, Lorraine Rembi, Héloïse Van Rissel et Marie-Florence Candassemi, qui ont battu la Russie en finale. Premier titre mondial aussi, tu l'as dit, pour les épéistes françaises depuis 17 ans. Et à l'époque, c'était
Laura
Flessel qui effectivement portait cette équipe-là. Donc, on va pas s'étendre. Du coup, j'ai bien compris. On va passer à une autre info. Grand Prix de Belgique, c'est la première course de l'après Horner chez Red Bull. Et on a entendu Max Verstappen s'exprimer pour la première fois depuis l'éviction de Christian Horner. On s'en fout, on s'en fout pas, Fred Weiss.
Je vais rester constant dans l'effort.
Non, d'accord, très bien. Putain.
Je m'en fous complètement.
Ça rapide comme si.
Oh, je m'en fous.
Ok, très bien, on passe à autre chose alors. Corentin Moutet, battu cette nuit par Deminor en demi à Washington. C'est du tennis, vous l'avez compris. On s'en fout, on s'en fout pas, Simon Dutin.
Je m'en fous, je laisse à Sarah.
Fred Weiss.
Sarah va faire ça magnifiquement.
Sarah Pitkovski.
Écoutez, je n'ai pas vu son match en pleine nuit. Je sais qu'il a fait un super match face à Medvedev. Il est en pleine bourre, tant mieux pour lui.
Tu veux pas en parler?
Bah si, voilà, je te l'ai dit.
Battu en 2-7, 6-4, 6-3, voilà. Corentin Moutet qu'on reverra au Masters 1000 de
Toronto. Oui, mais il a battu Medvedev avant et c'est une sacrée perf.
Ouais. Elle n'a pas voulu dire qu'elle s'en foutait, mais on a bien compris que c'était le cas. Alors, une autre info dans ce zapping, décidément.
J'ai pas beaucoup de réussite.
Mais il t'en reste.
Avec les bras cassés que j'ai autour de la table, j'ai prévu mon coup, bien sûr. Le Qatar, officiellement candidat pour accueillir les Jeux Olympiques 2036. Info de la semaine. On s'en fout pas. Ça rapide comme ça.
Je m'en fous pas.
Simon Dutin.
S'en fout pas.
Fred Weiss.
Je ne m'en fous pas.
Le Qatar qui se portera donc candidat, c'est ce qu'a annoncé le comité olympique qatari. Ils expliquent qu'ils ont 95% des infrastructures déjà en place.
Même s'ils
n'ont
pas, ils sont capables de les construire dans un temps record.
On a pas trop
donc, de toute manière,
le Qatar qui a déjà évidemment accueilli la Coupe du Monde 2022, qui veut être également pays hôte pour la Coupe du Monde des clubs en 2029. Fred, on t'a pas beaucoup entendu, tu t'en fous pas.
Mais non, je m'en fous pas, non. C'est bien de savoir qu'ils sont candidats. On sait que ça sera bien fait. On sait qu'ils ont la volonté de faire du sport une sorte d'étendard pour leur pays. Donc
Simon,
moi, ça me va très bien.
Même dans le zapping, t'en mets pas une au fond, hein, mon Fred. Hein,
c'est... Mais ah, je suis pas d'accord avec moi.
Bah parce qu'en fait il y a des contraintes climatiques quand même, ça poserait quand même la question d'organiser des Jeux Olympiques d'été en hiver a priori, parce que il fait beaucoup trop chaud pour organiser des épreuves
on a eu ces mêmes questions là à Pékin aussi, hein.
Oui.
Ouais, bon bah
tu vois, on va avoir toujours ce problème là, ce problème va devenir récurrent, c'est vraiment grotesque, au bout d'un moment
on pourra pas,
mais on va avoir de très beaux jeux et comme d'habitude tout le monde sera ravi parce que ça sera très bien organisé.
Est-ce qu'on fait les Jeux d'été en hiver? C'est ça la question.
Oui, mais
ce serait vraiment super, ce serait formidable.
C'est marrant, des Jeux d'été en hiver.
Non, mais parce qu'on avait désolidarisé la même année l'hiver et l'été pour faire une forme d'alternance. En fait, maintenant, on va les remettre au même mois. Les hivers, exactement, les étés vont se faire au même moment. Et
ça n'existe plus, l'été, l'hiver.
Ben, enfin, quasiment plus.
Ah, ce qu'il faut préciser, c'est que le CIO, aujourd'hui, sur les pays qui se portent candidats, maintenant, ça peut rester confidentiel.
Oui, on papote en privé, mais on n'a plus besoin de déposer de dossiers officiels de candidature accessibles à tous. Donc,
ça va être encore, déjà que c'était du lobbying, maintenant ça va se faire du lobbying. D'accord. Plus officiel autour d'une table, et on sait que.
Bon, il y en a qu'un qui veut être ambassadeur de Qatar 2036.
Ah, mais moi, je suis déjà motivé pour y aller.
Mais au moins, il pense à l'avenir.
Tu sais quoi, c'est un bon plan.
Bah oui, c'est pour ça
que
je dis ça.
Parce que si t'es ambassadeur de Qatar 2036, je te jure que t'as pas besoin de venir tous les week-ends aux grandes gueules.
C'est pour ça qu'il faut dire du bien. T'as compris? Bon, allez, merci pour ce zapping. Je précise quand même, pour les fans de F1. Parce que c'est important, Grand Prix à 15h à suivre sur RMC, avec Jean-Luc Roy au commentaire, à ne pas rater bien sûr. Dans un instant, on revient avec notre bras de fer autour du cas Yannick Sinner. Il a rappelé son préparateur physique, renvoyé après son affaire de dopage. Est-ce qu'il se moque de nous, le numéro 1 mondial? Oui ou non? On attend votre avis au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.